Il y a toute une, une procédure pour arriver à. Mais ça fait plaisir de se retrouver ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu et donner gloire à notre Dieu. Et j'ai beaucoup apprécié la première partie de notre frère Philippe, parce que, en effet, combien la confiance est importante. Et c'est un privilège, c'est notre privilège d'avoir un Dieu en qui on peut faire confiance. J'ai pensé à un passage biblique dans l'Épître aux Romains, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Romains chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais vous le lire. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. C'est tellement important de la lire et de la méditer et de l'approfondir. Là, nous trouvons dans ce passage des exhortations et il est dit, vous qui êtes forts, non, nous qui sommes forts. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, on se place toujours sur le terrain, on se dit, moi qui suis fort, qui domine la situation, qui suis un homme de prière, qui ai beaucoup de foi, qui ai beaucoup d'expérience. Et puis ce frère-là, qui vit dans, qui fait, qui agit, qui n'est pas. Et on a tendance à se comparer les uns aux autres, et on est très satisfait de soi-même. On ne se remet pas en question, mais on remet les autres en question. Alors Paul commence par des paroles qui sont étranges dans sa bouche, parce que j'aurais très bien compris qu'il dise, vous qui êtes forts. Et il dit cela aux Romains. Aux Corinthiens, il dit, vous qui êtes spirituels. Mais aux Romains, il leur dit, nous qui sommes forts. Hein, vous voyez la différence. Paul ne fait pas une erreur. Paul est un homme fort, spirituel, qui craint Dieu et qui marche avec Dieu. Donc il n'a pas honte de dire qu'il est fort. Il le sait et il n'y a pas d'orgueil ni de fierté à dire que. On marche dans les voies de Dieu, qu'on accomplit l'œuvre de Dieu et que on est sans reproche, notre conscience ne nous reproche rien. Voilà, si notre conscience nous reproche quelque chose, eh bien on dit, ma conscience me reproche, je marche dans une certaine fidélité, mais pas complètement. Il y a des choses sur lesquelles je me sens faible, je me sens coupable. Tandis que le frère que je vois là, je sens que lui, il a vaincu, il est allé plus loin que moi. Et c'est dans toute modestie, en regardant la parole de Dieu et le témoignage de notre conscience, que nous disons ces certaines choses. Il y a des personnes qui se vantent et c'est à tort. Tandis que d'autres, eh bien, si elles disent quelque chose, c'est la vérité. Évidemment, on ne porte pas sur notre front je suis spirituel ou je suis fort ou moi il n'y a pas de problème la prière je sais de quoi il s'agit hein, ou je suis infaillible sur tous les versets bibliques je les connais par cœur etc 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 ces choses-là c'est malvenu d'en faire étalage mais néanmoins il y a un témoignage que nous portons en nous-mêmes et qui est porté devant les autres, qu'ils constatent qu'il y a quelque chose de différent dans notre vie. Il y a une manière d'être, et même parfois une manière d'être qui est inconsciente. Nous ne voyons pas ce que nous sommes. Et je vais vous dire, c'est très bien comme ça. Si vous ne voyez pas que vous êtes un bon chrétien, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de le dire aux autres, de les avertir que vous êtes un bon chrétien. Mais vous dites, je suis en chemin et je désire me perfectionner, je désire avancer. Si j'ai fait quelques progrès par rapport à d'autres, je le dois seulement à la grâce de Dieu et à sa miséricorde envers moi et à sa patience. Parce que Dieu contribue à mon succès dans la vie chrétienne. Si je n'avais pas Dieu, je n'y arriverais pas. Je ne pourrais pas être meilleur, je ne pourrais pas faire des progrès, je ne pourrais pas être le chrétien que je suis. C'est si Dieu ne nous secourait pas. C'est pour cela que dans une église, il y a des chrétiens forts et il y a des chrétiens faibles. C'est une vérité absolue. Nous n'avons pas besoin de souligner qui est fort, qui est faible, mais néanmoins, c'est le cas. Il y a des chrétiens qui marchent avec affermis, avec solidité. Ce sont des hommes et des femmes qui, sur les épaules desquels repose la croissance de l'Église et la continuation de l'Église. Hein. Ce sont des hommes et des femmes de prière et de témoignages. C'est même, il est dit hein, dans un certain passage, que ce sont des colonnes dans l'Église. Hein. C'est pour ça que je dis, on dit c'est Dieu qui soutient. Mais il y a aussi des personnes qui soutiennent. Si ces personnes-là sont des colonnes, c'est-à-dire qu'elles soutiennent aussi. Hein. Donc il y a des personnes qui le sont et d'autres. Eh bien, qu'ils ne sont pas des chrétiens aussi solides. Et ils le seront, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et c'est très malvenu de juger et de condamner et de voir les défauts chez les autres et de dire, ah, le frère, il est ceci, le frère, il est cela. Ils ne sont pas comme ci, ils ne sont pas comme ça. Et combien de fois j'ai entendu parler à tort et à travers sur les défauts les uns des autres. Oh, je dis pas, il y a des défauts sur lesquels il faut froncer les sourcils et il faut dire ça, c'est mauvais. C'est pas parce que c'est un péché, c'est un scandale. Dans l'Église, il y a des choses, il faut dire, c'est mauvais. Mais après, le chrétien n'est pas toujours aussi capable de vaincre le péché. Il n'est pas aussi fort qu'il pourrait être. Il n'a pas tout saisi dans la vie chrétienne. C'est un chrétien faible. Alors il est dit, supporter. Votre frère qui est faible. Vous sentez que vous êtes fort? Alors, vous avez vu quelque chose qui ne va pas? Soutenez-le. C'est de la solidarité. C'est le mot. Vous savez, le mot qui a fait fureur, c'est le mot liberté. C'est le mot. Ce mot a été. Je me rappelle, ça me place dans une certaine jeunesse. Nous proclamions la liberté parce que j'avais 18 ans en 68. Ne calculez pas mon âge, j'ai 65 ans. C'est comme ça. Mais 68, on proclamait la liberté de. On est contre tout ce qui est pour, et on est pour tout ce qui est contre. Hein, je m'appelle cette devise que l'on écrivait sur les murs et avec lesquelles on barbouillait nos t-shirts, etc. Et c'est. On était contre toute forme d'autorité. Et je peux dire, j'en étais. J'en étais. Et je croyais à ce que je faisais, et je croyais qu'on pouvait changer la société par des proclamations de liberté. Mais aujourd'hui, le mot liberté ne veut plus dire grand-chose. Et la plupart des gens maintenant prononcent le mot de solidarité. C'est le mot qui est à la mode. Ce n'est plus la liberté, c'est la solidarité. Et le monde parle de solidarité, mais dans notre église, dans nos milieux chrétiens, la solidarité manque. La plupart du temps. Le frère est faible et nous ne le supportons pas. Notre frère nous a scandalisés et nous sommes durs vis-à-vis de lui. Et je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi-même. Hein. Parce qu'avant de vous dire cela, je l'ai prononcé pour moi-même. Parce que en le disant, je me dis, mais tu n'as pas été trop d'un caractère facile avec certains. Et tu n'as pas été aussi compatissant. Tu n'as pas eu un regard de bienveillance vis-à-vis du frère qui t'a choqué dans ce qu'il a fait, ou dans ce qu'il a dit, ou dans ce qu'il n'a pas fait, ou dans sa manière d'être, ou dans sa manière de s'habiller, ou dans ce. Hein, vous pouvez. Mais la parole de Dieu nous dit de supporter les faibles. Parce que les faibles sont là, ils sont avec nous, et ils mettent à l'épreuve notre force. Si nous sommes forts, c'est justement pour supporter ceux qui sont faibles. Si vous avez la moindre capacité, si vous avez le moindre doigté sur quelque chose, eh bien c'est pour le mettre au service des autres. Et si vous avez, dans votre vie chrétienne, fait certains progrès par rapport à d'autres qui ne les ont pas faits, alors vous êtes redevable vis-à-vis de ces autres de leur donner ce que vous avez, de les rendre participants de ce que vous avez. Ça s'appelle être solidaire les uns des autres. C'est justement l'Église. L'Église de Dieu, quand tous les membres interagissent les uns avec les autres, quand il y a cette complicité, cette solidarité, ce soutien, cette force de l'Église, qui est le chrétien est faible, le frère ou la sœur, on prie pour lui, on intercède. Et parfois, eh bien, il faut l'avertir, il faut dire, mon frère, là, peut-être ce n'est pas tout à fait le bon chemin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on avertit, mais en toute douceur, avec amour, avec patience, avec la patience de Christ, avec l'amour de Christ. C'est qui sommes-nous pour juger, nous juger les uns les autres, et à plus forte raison, nous condamner les uns les autres. Comme je vous ai dit, il y a certains péchés, et il y a une vie dans le péché que là, on condamne. Et que on juge, on condamne, ça c'est certain. Mais ce n'est pas de cela que je parle. C'est la faiblesse du chrétien. C'est celui qui souhaiterait avoir la victoire, qui combat mais qui n'a pas la force de poursuivre le combat, qui a besoin d'être épaulé, qui a besoin d'être soutenu. Et cette personne-là, eh bien, elle est en progrès parce que les autres sont solidaires de cette personne. Si par exemple vous avez un enfant qui est en difficulté scolaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Lui dire, tu n'es bon rien, tu n'es pas capable. J'ai connu ça, hein? Je sais. C'est pas besoin de. Mais maintenant, nous sommes à une autre époque. On lui donne un soutien scolaire. Si vous avez les moyens pour cet enfant, vous allez donner des cours particuliers. Vous allez faire en sorte que cette personne, votre enfant, eh bien, aille plus loin, qu'il ne reste pas dans l'ignorance. Et qu'il n'accumule pas des lacunes les unes après les autres, parce qu'une lacune, si elle n'est pas comblée, eh bien, ça provoque d'autres lacunes, et une année perdue, eh bien, l'année suivante ne sera pas réussie, parce que ce qu'on n'a pas appris dans une année, on ne le saura pas l'année suivante, hein, ça c'est certain. Donc, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais ce que l'on juge normal dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce que nous ne le trouvons pas normal dans la vie chrétienne? Il y a eu une époque, c'est 18e, 19e siècle, les églises étaient florissantes et puissantes. Et elles envoyaient des missionnaires. Elles ont fait beaucoup de travail, énormément de travail. Nous ne pouvons pas comptabiliser. Il n'y a que le Seigneur qui sait ce que ces églises ont fait avec peu de moyens et l'immensité du travail. Mais les chrétiens étaient beaucoup plus solidaires qu'ils le sont maintenant. On ne regardait pas le frère comme. Bon, bien sûr, il y a toujours eu des gens, hein, un peu spéciaux, mais ils ne regardaient pas le frère comme un handicap dans l'Église. Mais ils l'aidaient, ils compatissaient, ils le soutenaient. Et il y avait même des réunions de prière qui étaient organisées pour cette personne. C'est pour que les choses changent. Pour que cette personne puisse avoir la force d'aller plus loin. Et même, quelqu'un était malade, spontanément, des chrétiens se disaient, bon, on va prier, et puis ils se connaissaient les uns les autres, ils organisaient une cellule de prière pour prier pour cette personne qui était en difficulté, soit par la maladie, soit par un handicap moral, ou par toutes sortes de choses. Et il y avait une solidarité. Les chrétiens forts soutenez les chrétiens faibles. Il y a, bien sûr, on est la répréhension, aller au-devant de la personne, lui dire ce que tu fais est mal, etc. Bon, très bien, ça, on est capable de le pratiquer. Mais ce qui est en arrière, ce soutien dans la prière, dans l'amitié, dans le conseil, dans la persévérance, il y a des personnes qui ont besoin d'être soutenues et que jour après jour, on s'occupe d'elle. C'est, vous dites, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde de cette manière. Mais évidemment, évidemment, on ne peut pas s'occuper de tout le monde de cette manière-là. Mais il y a des adultes, on ne s'occupe plus d'eux, mais les adultes s'occupent des enfants. Les chrétiens faibles, les plus forts, s'occupent d'eux. Et ainsi, tout va bien. On ne s'occupe pas de tout le monde, mais on s'occupe de ceux qui ont besoin que l'on s'occupe d'eux. Après, les autres, eh bien, ils n'ont pas besoin. Alors, c'est eux qui entreprennent, c'est eux qui soutiennent. Et la plupart du temps, la plus grande efficacité est dans la prière. Parce que, vous savez, vous pouvez ajouter des paroles aux paroles. Vous pouvez exhorter sur exhortation, avoir dit à une personne, vous pouvez avoir tout dit. Qu'est-ce que vous allez dire de plus que ce que vous avez dit déjà? C'est fini. Il y a un moment où c'est terminé. La personne n'avance pas, elle n'a pas la victoire, elle n'a pas la victoire, c'est tout. Et vous pouvez exhorter tant que vous voudrez. La personne, ce n'est pas avec des paroles que vous la poussez qu'elle va faire des progrès. Mais c'est là, c'est le moment de la prière. Et quand plusieurs personnes prient, il y a cette communion dans la prière. Il y a ces personnes qui se connaissent, qui savent. Ce sont on pourrait dire presque les pompiers de l'Église. C'est quand il y a le feu, eux, clac, ils sont mobilisés, ils prient, ils intercèdent. Malheureusement, il y en a de moins en moins dans l'Église. Et des personnes qui se sentent concernées par la croissance de l'Église, par les problèmes de l'Église, et qui, quand il y a un problème, ils intercèdent. Alors, évidemment, peut-être un ici, un là-bas, mais c'est cette communion, cette solidarité dans la prière, cette complicité, si je pourrais dire, qui fait que deux, trois personnes se connaissent, savent porter un fardeau, une charge, et vont jusqu'au bout de leur fardeau, de leur charge. Vous savez, il y avait je reparle de ce 18e, 19e siècle, mais les cellules de prière, il y en avait même dans les églises, hein. Il y avait même des locaux dédiés à la prière, qui étaient loués par un certain nombre de chrétiens pour prier. Et ils se retrouvaient parce que c'était à proximité de leur lieu de travail. Alors ils avaient loué ensemble et ils se retrouvaient entre midi et deux dans les moments où pour manger. Au lieu de manger, ils mangeaient très rapidement et ils s'organisaient pour prier, pour intercéder pour l'Église, intercéder pour le monde, intercéder pour les chrétiens faibles. Il y avait de l'ingéniosité à organiser, à se mettre dans les dispositions pour être efficace dans la prière. Parce que ces personnes-là, eh bien, avaient compris que rien ne se fait s'il n'y a pas vraiment la prière, s'il n'y a pas l'intercession, si les forts ne soutiennent pas les faibles, si ceux qui sont forts ne vont pas au secours de l'Église, si les forts ne vont pas au secours d'un monde perdu. Il fallait prier, prier, intercéder. Ils avaient compris. Et nous, eh bien, nous sommes, je ne sais pas, il y a des générations qui n'ont pas fait leur travail, c'est certain. Mais donc nous prenons, comme je dis souvent, on a pris un train en marche, hein? Le train est arrivé à une gare, on a pris ce train-là, on n'a pas choisi le train, hein? Mais nous sommes dans le train dans lequel nous sommes. Mais nous sommes responsables de notre humanité. Nous sommes responsables de ceux qui sont nos contemporains. Nous sommes responsables d'être les chrétiens que nous devons être dans un 21e siècle, à une certaine époque donnée, dans un lieu donné. Et Dieu nous tient pour responsables d'être ce que nous sommes et d'aller jusqu'au bout de ce que nous devons être. Vous ne pouvez pas dire, on peut regretter, après moi je parle beaucoup, hein, 18e, 19e siècle, j'aime beaucoup cette époque-là, mais je vis au 21e siècle, il y a les leçons à apprendre du passé. Et on regarde vers l'avenir. Et on se dit comment eux ont réussi et nous n'arrivons pas à réussir. C'est-à-dire que nous devons employer les mêmes méthodes qu'ils ont employées. Leur méthode, c'était la consécration totale à Dieu. Dieu prenait la première place. Personne d'autre prenait la première place dans leur vie que Dieu. C'est une consécration totale. prêt à tout perdre pour gagner Christ. Et puis, des hommes et des femmes de prière et de foi. C'est comme cela que les choses avançaient. Il n'y a pas un secret, il n'y a pas un mystère, il n'y a pas une époque où c'était plus favorable qu'à une autre époque. Je peux vous dire, c'est le 18e siècle, mais c'est l'époque de Voltaire. C'est le siècle des Lumières. On pourrait dire des ténèbres. C'est parce que leur lumière, ils ont discriminé la parole de Dieu, aussi bien en France, parce que nous on connaît Voltaire, mais en Angleterre. Voltaire ne s'est inspiré que des idées d'un Anglais, hein, Bolingbroke, si ma mémoire est bonne, qui avait déjà toutes ces idées-là, il les avait déjà données, et les Français n'ont fait que les rapporter, leur faire passer la manche, c'est tout, hein. Donc la seule chose, c'est que Voltaire avait une plume beaucoup plus, un style bien plus beau, bien meilleur que celui de l'anglais. Donc il n'y a pas de problème, ses idées ont fait beaucoup plus de ravages que les idées de l'autre. Mais pourtant, Voltaire n'était pas à l'origine de ses idées. Il fait un voyage en Angleterre, il a rencontré les propagateurs de ses idées, et lui ont plu, et il a trouvé un cheval de bataille enfourché. Mais c'est comme cela que les chrétiens se trouvaient dans une situation très difficile. Et puis il y avait la révolution, il y avait un monde qui brûlait de partout. Donc tout cela, ce n'était pas un terrain propice. Nous disons que nous avons des handicaps, mais eux les avaient. Ils avaient d'autres handicaps. Mais ils avaient des handicaps d'une même force, parce que Satan ne se tenait pas tranquille. Et quand un chrétien ouvrait la Bible et disait « Oui, mais ta parole de Dieu, est-ce que Dieu existe vraiment ? C'est quel Dieu tu nous parles ? Mais le Dieu qui est trois personnes et qui est un, tu rigoles. Moi, je crois en un Dieu, je suis déiste. Ah, » voilà. C'était les grandes idées de cette époque. Mais nous sommes confrontés à d'autres problèmes, d'autres idées. Mais ne croyez pas que c'est un monde plus difficile que le leur. Seulement, ils avaient vraiment pris Dieu au mot. Et ils regardaient à la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a dit ce qu'il a dit. Il a vraiment dit. Alors ils s'appuyaient. Ils regardaient. Mais la parole de Dieu dit ça. Si Dieu le dit, c'est la vérité. Regardez ce qui est écrit dans ce verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire que la parole de Dieu est la clé de voûte de toute notre vie chrétienne. Tout tient sur la parole de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a dit. Et Satan essaiera toujours de remettre en question ce que Dieu a dit. Et si vous avez quelqu'un, un frère en Christ, qui vous dit « Oui, mais la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Je le crois parce qu'elle le dit. Je ne me base pas et je ne me fie pas à une parole d'homme, mais à la parole de Dieu. » Ce qui a été écrit pour notre instruction. Si vous avez manqué l'instruction, suivez des cours de rattrapage de parole de Dieu. C'est puiser dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Non pas pour, voilà, j'ai fait mon devoir et j'ai lu la parole de Dieu. J'ai l'habitude de lire 3 chapitres par jour et 5 le dimanche. Hein. Je vous dis ça parce que c'est la méthode pour lire la Bible en un an. Mais si vous avez suivi cette méthode-là, je ne veux pas la condamner, mais elle n'est pas suffisante. Il faut méditer et approfondir. Il ne s'agit pas simplement d'avoir respiré la parole de Dieu, il faut l'avoir assimilée, il faut l'avoir approfondie. Il faut que cette parole de Dieu, nous nous y soumettions. Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé, pas un homme, c'est Dieu. Dieu l'a dit. Vous lisez les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Soulignez-les, hein. Il n'a pas parlé en vain, Il a dit que celui qui demandait obtenait ce qu'il avait demandé. Il a dit que nous pouvions avoir la victoire qui est triomphe du monde. C'est votre foi. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Nous avons vaincu le monde. Christ l'a dit. C'est que Satan, et c'est Paul qui dit que Satan serait bientôt sous nos pieds. Le Seigneur Jésus-Christ a dit des paroles semblables. C'est vrai qu'il y a eu le moment des ténèbres de Golgotha, mais c'est suivi du triomphe de la résurrection. Et Satan a été vaincu. Le monde a été vaincu. Le péché a été vaincu. J'ai été vaincu, moi. Mon moi, mon égoïsme, mon esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu a été vaincu à la croix. Tout ce qui se lève, toute rébellion, toute autorité qui s'élève a été vaincue à la croix. Et si je suis une autorité sur moi-même, cette autorité a été vaincue aussi à la croix. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, ne soyons pas, excusez-moi de dire la chose, des insensés. Soyons des sages. Parce que Dieu a parlé et ne parle pas en vain. S'il a dit quelque chose, c'est pour que nous le suivions, c'est pour que nous nous appuyions sur ce qu'il a dit. Dieu a parlé. Je m'appuie sur ce qu'il a dit. Il est dit, il a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça, je peux vous dire. Il n'y avait pas un verset à apprendre par cœur, Philippe. Mais il y en a un quand même que je vous souhaite d'apprendre par cœur. Apprenez-le par cœur. C'est parce que c'est la vérité. Je disais une clé de voûte. Maintenant, je vais vous dire, c'est une pierre de fondement. Si votre vie chrétienne s'appuie sur un verset comme celui-là, la parole de Dieu a une puissance d'affranchissement. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, partageant jointure et moelle. Elle travaille dans nos cœurs. Elle sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est charnel et ce qui est spirituel, ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Elle fait le tri dans notre vie. C'est la parole de Dieu, mais à condition que nous la lisions avec intérêt et avec le désir de nous y soumettre. C'est pour cela, c'est comme ça que nous serons des chrétiens forts, parce que notre foi va grandir. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens prient pour la foi, mais quand on prie pour avoir plus de foi, on se décharge sur Dieu, on dit maintenant Dieu. Je suis un incrédule, je l'admets, mais toi donne-moi la foi, afin que je ne sois plus un incrédule. Je l'ai toujours pas. Quand tu voudras m'exaucer, j'aurai la foi. Ah, tu m'as pas encore exaucé? J'ai pas la foi. De quoi tu me reproches? De ne pas avoir la foi? J'ai pas la foi, tu me l'as pas donnée. Etc., etc. Et de jour en jour, ça se poursuit. Mais la parole de Dieu, elle est claire. C'est le Seigneur Jésus qui dit, ayez foi en Dieu. C'est tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Si vous aviez de la foi comme un grain de CNV, c'est-à-dire si vous aviez le minimum de foi, parce que le grain de CNV, c'est la plus petite des semences, hein, donc c'est le minimum. Si vous avez le minimum de foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Alors c'est le minimum. Après le reste, il ne s'agit pas de montagne matérielle, mais de montagne spirituelle parfois, hein. Et de fardeau très pesant. Mais la foi, on décide. On dit, j'ai la foi, je crois. Dieu a parlé. Il a dit, dans ce verset-là, il a dit, je le crois. Je m'attends à Dieu parce que là, il parle. Et il dit quelque chose de sérieux. J'en tiens compte. J'en tiens compte pour ma vie. Je place ma confiance sur ce verset, sur cette parole de Dieu. Il a dit. Je le crois, je l'attends. Et je te rends grâce, mon Dieu, de ce que tu vas m'exaucer, parce que tu l'as dit dans ta parole. Remercier Dieu pour la foi qu'il vous a donnée, pas celle qu'il vous donnera, celle que vous attendez sans l'attendre. Mais Dieu désire que nous marchions debout. Nous sommes des chrétiens. Si nous sommes forts, alors on le prouve. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. C'est parce que nous sommes appuyés sur Dieu, sur sa parole, que nous sommes forts. C'est pas parce que nous sommes costauds et que nous sommes capables de... Nous avons la force morale. Votre force morale, si elle ne se soumet pas à Dieu, elle ne vous servira pas à grand-chose. Vous pouvez être les gens les plus persuasifs, les plus solides qui existent. Ce qu'il faut, c'est placer sa confiance en Dieu, dans sa parole. Dieu a parlé. Et c'est là qu'est votre force. C'est dans la parole de Dieu. Dieu a dit. Alors, je ne bougerai pas parce que Dieu a parlé. C'est exactement ce qu'il a dit. Et c'est la suite de ce passage qui nous dit « Que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une bouche, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » C'est alors, à partir de ce moment où nous sommes des chrétiens forts, parce que nous sommes fortifiés et appuyés sur la parole de Dieu, forts dans la foi, alors nous devons supporter nos frères et les amener plus loin, afin que tous ensemble, d'une même bouche, d'un même cœur, on puisse louer Dieu et rendre grâce à Dieu. Parce que le chrétien faible, eh bien, il peut devenir un chrétien fort. C'est ce qui lui manque, c'est de l'instruction. Ce qui lui manque, c'est de la compassion. C'est de lui montrer que la parole de Dieu, elle a vraiment dit ce qu'elle a dit. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, je parle. Mais vous dites, c'est des belles paroles, mais montre-moi ta vie. Il est une chose de parler, il est une autre chose de vivre. Notre vie est un témoignage. Quand un chrétien fort parle, c'est une chose. Mais il est beaucoup plus fort quand il vit, parce que les autres le voient. Et c'est ce témoignage. Ils disent, mais si lui peut le faire, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi lui vit cette vie chrétienne et il marche dans la plénitude de la vie de Dieu? Et moi, pourquoi est-ce que je ne marcherai pas dans cette plénitude? Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est comme ça que le chrétien fort est un exemple pour le chrétien faible, afin que le chrétien faible soit repris dans sa conscience et qu'il dit, je serai un chrétien fort. Parce que je souhaite, je désire ardemment d'être un chrétien fort. Et je m'appuie sur sa parole. Dieu l'a dit. Et en fait, il y a une croissance par le témoignage, il y a une croissance par la manifestation de notre vie. Et nous sommes un exemple pour les autres, et les autres avancent. C'est un verset dans le Cantique des Cantiques. C'est la Sulamite qui court sur les murailles de Jérusalem et elle dit « Je cours » et quelques paroles plus loin, elle dit « Nous courons ». C'est très curieux, hein? C'est une forme très curieuse. Et en fait, si je cours, à un certain moment, nous courons. Parce qu'il y a un effet d'émulation. On désire avancer. Parce que mes frères et sœurs, si vous êtes faibles, si vous souffrez de votre lenteur et de votre tiédeur et de votre manque de ceci et cela, vous attendez de voir un chrétien fort devant vous et vous le souhaitez. Et le jour où vous le voyez, vous dites, je veux être comme ce chrétien, je veux avancer. Malheureusement, les chrétiens qui sont prêts à payer le prix d'être les premiers sont rares. Parce qu'être le premier, celui qui avance le premier, non pas le premier, hein, mais celui qui a avancé le premier, qu'est-ce qu'il doit vaincre comme handicap? De préjugés, de fausses enseignements, de contradictions, de ceci et cela. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu l'éclaire. Hein. Et alors, à partir de ce moment-là, il marche, il avance. Et les autres le voient et se disent, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je n'avancerai pas? Et il y en a un qui désire, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est comme ça qu'une église change, se réveille. Parce que les chrétiens forts ne se complaisent pas en eux-mêmes. Ils ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes, hein, pourvu que, oh là, il commence à me rattraper celui-là. Je vais faire en sorte. Non. Dès qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est dans le bon chemin, on se dit, bon, moi aussi, je vais y être. Moi aussi, je vais avancer. On va marcher ensemble. C'est le chrétien qui avance et qui voit un autre avancer, se sent solidaire de cet autre. Il se dit, enfin, je ne suis plus tout seul. C'est jusqu'à présent, je croyais que j'étais seul. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autre qui avance avec moi. Et puis, il y a un autre. Ça s'ajoute. On ne doit pas se complaire en nous-mêmes. Hein. C'est ce qui est dit. C'est verset 3, car Christ ne s'est point complu en lui-même. On ne se complaît pas en soi-même. Christ pouvait dire, après tout, je suis Dieu, je suis le saint, je suis tout ce que. Je reste dans mon ciel. Mais il est descendu jusqu'à l'homme. Il s'est fait faible avec les faibles. Il est descendu au milieu des pécheurs. Il est mort même sur la mort de la croix. Le supplice des bandits, des criminels. Il s'est pas complu en lui-même. Et donc c'est pour cela que nous devons nous accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Accueillez-vous, accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. C'est comme Christ. Nous sommes ressemblants à Christ. Nous marchons dans le même chemin. Si Christ est descendu, nous devons descendre. Nous ne devons pas rester sur notre piédestal. Voilà, j'ai arrivé à un degré de vie chrétienne. Bon, les pauvres. Hein? Oh, s'ils avaient quand même de l'énergie. Moi, j'ai eu de l'énergie. Et j'aimerais bien qu'ils en aient aussi, mais bon, ils n'en ont pas. Ça, ce n'est pas un langage chrétien. Et cela prouve que nous sommes un chrétien faible et que nous croyons que nous sommes forts. Mais dès que nous avançons, eh bien, il y a une solidarité, il y a une complicité. Et il y a un désir que les autres avancent et que les autres fassent des progrès. Et même, je vais vous dire, qu'ils nous dépassent. Parce que nous avons nos handicaps, nous avons nos faiblesses, nous avons ceci et cela. Il y a les choses sur lesquelles nous n'avons pas réussi à avoir la victoire. Mais nous souhaitons que nos frères et nos sœurs aient la victoire là où nous n'avons pas eu la victoire. Et même qu'ils nous dépassent. Qu'ils soient des modèles bien meilleurs que nous. C'est cela, avoir l'esprit de Jésus-Christ. Ce désir où on ne cherche pas soi-même à être le meilleur, on cherche à ce que les autres soient les meilleurs, à ce que les autres avancent, à ce que les autres soient la gloire de Dieu et qu'ils participent à la gloire de Christ. Voilà. Nous allons prier. Ô notre Dieu, combien nous désirons te louer pour ta parole. Nous voulons te demander, Seigneur, qu'elle agisse dans notre vie, qu'elle travaille dans notre cœur, que nous ayons soif de ta parole, que nous ne la laissions pas sur une étagère, Seigneur, que nous ne laissions pas tomber à terre tes paroles, mais que nous les recevions, que nous les chérissions, que nous sachions les méditer, les approfondir, les vivre, Seigneur, jour après jour. Père, nous voulons te demander d'édifier ton Église, de la fortifier, de la faire grandir, que tes enfants soient amenés plus loin, que vraiment il y ait une soif, un désir toujours plus grand de te servir et de vivre pour toi. Que toi, Seigneur, tu aies toute la gloire, toute la louange. Parce que Seigneur, qu'est-ce que nous sommes? Que des serviteurs. Nous sommes à ton service, Seigneur, pour faire ton œuvre. Nous sommes devant un monde perdu, un monde qui a soif, un monde qui souffre, un monde qui a faim et qui est nourri d'ordures, Seigneur. Mais nous voulons te demander que nous soyons dans ce monde la lumière, Seigneur, qui brille dans les ténèbres. Que cette Église, Seigneur, soit tout entière réveillée, qu'elle marche d'un pas ferme et en te glorifiant jour après jour. Oui, notre Dieu, gloire à ton nom et louange à toi, parce que tout est possible à celui qui croit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.